Bonsoir et bienvenue dans le grain à moudre d'été. Ce soir, est-ce la fin de l'écologie politique ? Ils sont parmi les premiers à effectuer leur rentrée politique. Les écologistes sont à Strasbourg cette semaine. Première rencontre mercredi, premiers ateliers jeudi pour leur journée d'été. L'occasion de faire le point à 10 mois des élections européennes. Un moment clé pour Europe Écologie Les Verts, tant le parti semble souffrir. Deux chiffres seulement pour le comprendre. 17 députés en 2012, 0 l'an dernier, un effondrement en 5 ans seulement, effondrement dont ont bien conscience les dirigeants. Dans une lettre adressée aux militants cette année, ils ont reconnu les limites de leur action politique, la crise de leur mouvement et son inadaptation aux enjeux du 21e siècle. Cet exemple électoral illustre la débâcle de la formation, une déroute qui intervient pourtant après de grands succès, notamment lors des élections européennes de 2009, 16% des voix et 14 élus. Une évolution qui pose donc la question de l'existence même de l'écologie politique, d'autant qu'un autre de ses représentants, Nicolas Hulot, au pouvoir, lui, est dans une situation très inconfortable, à la fois bridée et critiquée. D'où cette question ce soir, est-ce la fin de l'écologie politique ? Pour répondre à cette question, trois invités. Lucille Schmitt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de la Fabrique écologique, un groupe de réflexion, et co-présidente de la Fondation Verte Européenne, la Green European Foundation. Daniel Bois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CEVIPOF. Vos travaux ont essentiellement beaucoup porté sur l'écologie politique. Michel Rivasi, bonsoir. En duplex de Valence, dans les studios de France Bleu de Romardèche, vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts. Avant de parler de la situation actuelle, notamment celle du parti Europe Écologie Les Verts, un peu de recul. Prenons le temps, s'il vous plaît, de définir l'écologie politique. Daniel Bois, qu'est-ce que c'est l'écologie politique ?
Pour moi, c'est deux types d'actions pour défendre les thèmes de l'écologie. L'écologie politique, c'est celle qui s'est mise sur la scène électorale. Donc essentiellement dans le cas français, les Verts, nés en 84 et donc qui viennent sur la scène électorale. Pour moi, aller sur la scène électorale, c'est un point crucial pour des tas de raisons qu'on explicitera tout à l'heure. Et il y a une autre écologie qui est peut-être moins politique, mais qui a été très active à certains moments, notamment dans la période 2006-2007, c'est l'écologie environnementale. Je pense à l'action du Grenelle de l'environnement, etc., qui n'était pas du tout l'action des Verts, mais qui était l'action d'un cartel, de l'Alliance pour la planète, etc. Donc il y a ces deux écologies, et de mon point de vue, sans anticiper sur les questions suivantes, c'est un des problèmes de l'écologie politique, c'est d'avoir très difficilement réussi à concilier les deux ou à les allier. C'était bien l'idée de Europe Écologie Les Verts, et c'était un peu Daniel Cohn-Bendit qui avait cette idée. De mon point de vue, ça n'a pas duré très longtemps, et ça reste un des problèmes structurels de l'écologie politique.
On va y venir. Lucille Schmitt, votre définition de l'écologie politique ?
Alors pour moi, l'écologie politique, c'est le fait de dire que il y a un projet politique qui est porté par l'écologie. Vous savez, l'écologie, on oppose souvent l'écologie scientifique, portée par des scientifiques, des chercheurs, et puis l'écologie politique qui serait portée par des structures, des partis politiques, des acteurs donc classiques de la démocratie. Or, je crois que on est au-delà de la question des acteurs et qu'on est sur l'idée du projet, et que la question qui est posée par l'écologie politique, c'est le fait de repenser, de placer au centre la question de la relation entre humanité et nature, et donc de repenser nos institutions, puisqu'elles n'ont pas été pensées pour y introduire la question de la nature. Et donc, c'est un enjeu démocratique. L'écologie politique, ça concerne aussi bien le fait de repenser l'économie, le social, évidemment la question scientifique, mais aussi la relation entre l'espace national et l'espace européen et mondial, puisque la nature se joue des frontières. On se rappelle aussi de la manière dont le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à nos frontières. Et donc, c'est une manière de repenser la question démocratique, économique et sociale.
Michel Rivasi.
Ben, moi, je suis assez d'accord avec la définition que donne Lucille, dans la mesure où c'est véritablement un projet qui doit intégrer justement différents paramètres. On a parlé du social, de l'économie, de l'environnement, et à une dimension internationale, parce que on joue sur la planète et non pas que sur un pays, ni même l'Europe. Et on le voit bien par rapport à la crise sur le climat, même sur Tchernobyl qu'elle a rappelé là, que les nuages n'ont pas de frontières. Oui. C'est-à-dire que ce qui se passe dans un pays, eh bien, ça a des répercussions sur l'ensemble. Et l'écologie politique, elle est porteuse de ce projet. Vous voyez, c'est pour ça que quand on dit tout le monde fait de l'écologie, oui, mais le problème, c'est que lorsque on va commencer à faire de l'écologie, on va se heurter à certains lobbies. On le voit sur le nucléaire par rapport au lobby nucléaire. On le voit sur le sujet d'actualité qui sont les pesticides. On le voit sur tout ce qui est agro-business. Et que là, il y a des rapports de force. Et s'il n'y a pas des écologistes, vous voyez, pour porter, pour se bagarrer par rapport à ces combats, eh bien, on voit que ça se dilue. Et c'est la situation actuelle avec le gouvernement Macron.
Porter l'écologie sur le champ politique, sur le champ électoral, c'est ce que vous disiez, Daniel Bois, tout à l'heure, notamment avec la création des Verts en 1984, mais elle est apparue aussi un peu avant l'écologie politique, dans les années 70, portée notamment par un homme, René Dumont, oui. Un ingénieur oui. agronome, premier candidat à écologiste à l'élection présidentielle, c'était en 1974. Je vous propose de l'écouter, c'était l'occasion pour lui de donner sa définition, une définition en tout cas de l'écologie politique.
Nous sommes les écologistes, un mouvement de libération, de contestation globale de la société. Nous sommes contre la destruction des ressources rares de la planète, aussi bien ressources minérales ou pétrolières que les ressources biologiques. Nous sommes contre le gaspillage de ces ressources, contre la pollution qui devient insoutenable, contre l'excès de population qui amène cette pollution, contre la hiérarchisation de la société, contre la bureaucratie et l'ensemble des structures répressives de la société actuelle, contre la spéculation immobilière qui entraîne l'urbanisation délirante, contre la destruction du bocage normand. Et nous introduisons pour la première fois l'utopie dans l'histoire de France.
René Dumont, 1974, contre la destruction du bocage normand, contre la pollution, mais aussi contre la hiérarchisation, contre la bureaucratie, contre les structures répressives. Une définition, Daniel Bois, qui mélangeait des préoccupations écologiques avec des idées marquées à gauche.
Oui, c'est bien l'origine de l'écologie politique. Elle est marquée à gauche dès le début, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, quelquefois on dit est-ce que l'écologie est de droite et de gauche? Non, elle a toujours penché à gauche et Dumont lui a donné sa première pente au départ. Donc même quand on revoit effectivement, c'est bien l'entendre et quand on le revoit. Alors Dumont c'est un personnage extraordinaire parce qu'il est agronome et il va falloir qu'il se convertisse sur l'exemple de l'Afrique à autre chose que le développement, à un autre développement. Donc c'est un personnage tout à fait étonnant. Et puis derrière Dumont il y a les Amis de la Terre. Donc il y a déjà le mouvement environnemental qui est là. Alors avec cette question du social qui va se poser rapidement et qui va être quelquefois un facteur de division, est-ce qu'il faut faire de l'écologie au sens de l'écologie politique, de l'environnement, etc. et du social, ou est-ce qu'on peut tenir les deux choses à la fois? De mon point de vue, c'est une des questions crucial de l'écologie politique dans la société.
Michel Rivasi, sur ces rapports entre écologie politique et ancrage à gauche, en tout cas un marquage à gauche.
René Dumont, c'était très intéressant. Là, on retrouve vraiment la problématique actuelle. Il parlait d'équilibre, vous voyez, nord-sud, donc sur l'aspect planétaire. Il parlait de solidarité et il parlait de partage. Et c'est vrai que ça a une dimension de gauche. Mais pas de la gauche traditionnelle portée, vous voyez, par le Parti Socialiste ou d'autres, puisqu'ils se sont un peu, ils sont tombés dans cette espèce de libéralisme où c'est le marché qui est roi, où c'est l'argent qui est roi, etc. Moi, je suis à l'heure actuelle, lorsqu'on parle de la dilution de l'écologie, vous voyez, on peut faire de l'écologie d'accompagnement. C'est-à-dire se dire, bon, ben c'est vrai qu'il faut manger plus de bio, c'est vrai qu'il faut avoir un environnement sain. Et ça peut être accompagné dans des politiques assez libérales. Parce que tous les gens, vous voyez, ils veulent sauvegarder leur santé, ils veulent avoir un environnement sain, etc. Et puis, nous, on est plus sur une écologie de rupture. Parce que tant que vous êtes dans un modèle où vous allez promouvoir la production, où vous allez promouvoir la consommation, où vous êtes toujours sur comment augmenter la croissance, eh bien, vous tombez dans un modèle qui est inadéquat par rapport à la survie de la planète et de l'humanité. Regardez, lorsqu'on dit que les Français, si on consomme, si tous les gens de la planète consommaient comme les Français, il faudrait 4 planètes. Donc on voit bien que notre modèle, il n'est pas compatible, vous voyez, avec les ressources naturelles et surtout avec le fait que la planète ne peut pas subvenir, si vous voulez, à tous les besoins de la population.
Et ce que vous dites, Michel Rivasi,
c'est au mois d'août.
Ce n'est pas neuf, ça date aussi des années 70.
Oui. Mais tout à fait, mais maintenant, on le vit. Vous voyez le dérèglement climatique, regardez les canicules qu'on a eues. Les gens le vivent, regardez les ouragans. Moi, dans ma région, dans la Drôme, il y a eu des ouragans qu'on n'avait jamais vus. Regardez les sécheresses, les incendies, tous ces événements. Maintenant, les gens, c'est plus le diagnostic que faisaient les écologistes. Ils le vivent actuellement. Sauf que maintenant, il faut se dire comment en sortir, comment diminuer les gaz à effet de serre pour que ça soit durable pour les générations qui viennent. Eh bien ça, il faut changer de modèle. Et ça, on est dans une écologie de rupture. Mais une écologie de rupture, ça ne veut pas dire qu'elle est, elle est triste, elle va à l'encontre des gens. Il faut partager ce diagnostic avec les gens pour qu'on ait des actions concrètes et que ça soit partagé par l'ensemble et non pas qu'une élite en profite au détriment de l'ensemble.
Écologie de rupture, encore une fois, ce que dit Michel Rivasi prend aussi ses racines, je le disais, dans les années 70, avec un rapport qui est célèbre pour les écologistes, le rapport Meadows de 1972, qui s'intitulait « Les limites à la croissance ». On y est encore aujourd'hui, Lucille Schmitt, rien n'a évolué en un peu plus de 40 ans.
Non, moi, ce qui me frappe dans ce que dit René Dumont, pour revenir sur sa définition, c'est que, d'une certaine façon, on ne peut qu'être encore d'accord 40 ans après. Mais on remarque aussi les limites, au fond, on parle des limites de la croissance, mais il y a aussi encore des limites à l'écologie politique, puisqu'on est là pour s'interroger avec honnêteté, c'est que les contres l'emportent largement sur la définition du projet lorsqu'il s'exprime. Il est contre, semble-t-il, beaucoup de choses, et par exemple, il est contre aussi la croissance démographique. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment noté. Je ne suis pas sûre que ce soit tellement de gauche de dire qu'il faut réguler les naissances et empêcher par exemple les Africains, les Asiatiques d'avoir des enfants. Donc il y a quelque chose qui est d'ailleurs aujourd'hui encore redit par des scientifiques, et au fond, dans la manière dont René Dumont s'exprime, on comprend bien que entre le constat scientifique, le constat de l'agronome, et la réalité de l'élaboration d'un projet politique, il peut y avoir un vrai fossé. Et c'est ce fossé, je crois, qui explique aujourd'hui, par rapport à ce que disait Michel Rivasi, on est pour un nouveau récit, etc., lorsqu'on est écologiste politique, mais il reste à l'élaborer davantage, et il reste aussi à convaincre, je crois, les citoyens et les électeurs, puisque les résultats de l'écologie politique sont faibles, sont régulièrement décevants, il reste à les convaincre qu'il y a une forme de réalisme dans ce projet écologiste, et donc il reste, je crois, à changer la relation au pouvoir. On n'est plus là en train d'interpeller comme René Dumont, je ne me rappelle plus combien ce qu'il avait fait, mais je crois qu'il a fait 1% ou un truc comme ça.
1,5, ouais,
voilà.
Un peu plus.
Donc il a fait un résultat qui était un résultat de témoignage, et il reste à s'interroger sur la faiblesse des résultats, parce qu'il y a la relation au pouvoir et au réalisme.
Alors, on va revenir sur la faiblesse des résultats des écologistes aujourd'hui sur la situation actuelle. On parlait de la gauche, c'est là qu'est née l'écologie politique, Daniel Moy. Aujourd'hui, quasiment tous les partis politiques en parlent. Est-ce que l'écologie politique est transpartisane ?
Je crois pas. Je crois qu'il y a toujours un discours, bien sûr, parce que on peut pas être contre l'environnement, donc un espèce de discours consensuel, mais qui est vraiment de surface. Donc je suis toujours étonné quand on dit qu'il n'y a plus besoin d'écologie politique indépendante parce que tous les partis font de l'écologie. Personnellement, j'y crois pas du tout. Il y a des exemples, il y a des exceptions historiques. Dans le cas de la France, il y a l'exemple 2006-2007, j'en parlais tout à l'heure, où il y a l'Alliance pour la planète, et puis il y a une espèce de deal entre Sarkozy et puis Hulot, etc. C'est le pacte. Bon, ça fonctionne pendant un moment.
Pacte
ça dure
pendant
un
la campagne
an.
Présidentielle
oui.
de 2007,
voilà.
Qui aura comme disons réalisation le Grenelle de l'environnement.
Voilà, qui est quelque chose d'important, qui est une date, qui est toujours reconnue par le, même si les conséquences à long terme n'ont pas été aussi bonnes que ce qu'on espérait. Ça quand même, c'est quand même quelque chose d'important. Mais rappelez-vous. Un an après, le président Sarkozy explique que l'écologie, ça, l'environnement, ça commence à bien faire.
C'était au Salon de l'agriculture en 2011.
Voilà, parce qu'il veut récupérer sa clientèle, qui est effectivement une clientèle d'indépendants d'agriculteurs. Bon, l'extrême droite, n'en parlons pas, son intérêt pour l'écologie me paraît strictement électoral. Et à gauche, c'est quand même extraordinaire que de voir que pendant des années et des années, le PS a sous-traiter l'écologie au moment des élections nationales, sous-traiter l'écologie, pris un sous-traitant qui est allé vers. Je le dis de façon un peu cynique, mais jamais n'a pris en compte sérieusement l'écologie à l'intérieur. Il y avait au moment des congrès du PS, il y avait une petite liste écologiste qui se présentait, qui faisait 1 ou 2%.
Donc, et voilà, rapidement, Daniel Moy, l'exemple et l'expérience Europe Écologie, avant l'alliance avec les Verts, créée par Daniel Cohn-Bendit pour les élections européennes de 2009, est-ce que là aussi, en tout cas ce que voulait Daniel Cohn-Bendit, c'était une alliance transpartisane, de gauche certes, puisque c'est là d'où il vient, mais de droite aussi, il le disait dans ses discours. Est-ce que de ce point de vue-là, ça a réussi ?
Je crois pas que ça a réussi. Et pourtant, c'était assez crucial. Il y a une écologie, je commençais par la politique, qui penche à gauche très clairement, qui est à gauche du PS, en gros, historiquement, du point de vue des adhérents. Et puis, il y a une écologie environnementale qui, historiquement, n'a pas véritablement adhéré, les Amis de la Terre, etc. Il y a deux histoires qui sont un peu séparées. Et Elle se distingue en fait, bon, par pas mal de traits, et notamment que l'écologie dite environnementale, celle de Hulot et d'autres, a une attitude vis-à-vis de l'entreprise qui est probablement plus sympathique, plus ouverte à l'entreprise, au développement durable, qui est au contraire très critiqué par l'écologie politique des Verts. Donc il y a une espèce de dissensus là sur où aller. Et ce qui est derrière, c'est quelque chose d'important. C'est la position vis-à-vis de l'État et du marché. Donc, qu'est-ce que c'est que l'État? Qu'est-ce que c'est que le marché? Qu'est-ce qu'on peut faire des entreprises? Au fond, les Verts aiment pas beaucoup la notion de développement durable, justement parce qu'elle intègre l'entreprise. Et donc, ces deux notions, Cohn-Bendit, manifestement, il est pas du tout mal à l'aise avec ça. Mmh. Et donc là, il essayait cette réconciliation. Franchement, dans les faits, elle a pas fonctionné.
Est-ce que, puisqu'on venons-en maintenant donc au problème d'Europe Écologie Les Verts, Daniel Boim fournit une belle transition, est-ce que parmi les raisons de la situation d'Europe Écologie Les Verts, Lucille Schmitt, il y a, entre autres, hein, cette attitude face aux entreprises, à l'économie libérale, donc à l'inadaptation, puisque c'est le mot utilisé aussi par les dirigeants aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts, à la société contemporaine?
Non, je crois pas que ce soit. Enfin, moi, je crois pas que c'est ça la difficulté d'Europe Écologie Les Verts. Je pense que la difficulté, c'est d'abord de s'inscrire dans un cadre national avec un mode de scrutin qui, au fond, qui n'est pas la proportionnelle, donc qui ne favorise pas les nouveaux entrants. Même si maintenant, comme le disait Daniel, les Verts sont un nouvel entrant de longue date et que le Front National a réussi à dépasser, par exemple, cette difficulté du scrutin. Et puis, je pense que la difficulté, c'est aussi la façon dont la gauche, qui a été le Parti Socialiste, qui a été l'allié traditionnel des Verts, en fait, puisque ça a été choisi notamment par Dominique Voynet, n'a jamais fait, clairement lorsqu'il était au pouvoir, des choix écologiques. Moi, je voudrais quand même rappeler que dans les 110 propositions de François Mitterrand, on peut vraiment chercher des propositions vertes lorsqu'il arrive au pouvoir, que Brice Lalonde, qui est candidat, n'appelle pas à voter pour François Mitterrand au deuxième tour et qu'on voit bien que le programme commun, c'était pas avec les Verts à l'époque. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que disait Daniel, il faut quand même rappeler des personnalités comme Nathalie Kosciusko-Morizet, ce qu'a fait Jacques Chirac avant, avec une proximité avec Nicolas Hulot, en fait, de longue date, dès le début des années 2000, et que ces gestes symboliques, ça compte aussi, même si ça se traduit pas forcément dans des actes ensuite forts de politique, et que c'est souvent la droite au pouvoir qui a porté de l'écologie. Alors, est-ce que c'était une manière de se repeindre en vert? En tout cas, les socialistes n'ont guère brillé, y compris avec des gouvernements de coalition, par le fait de porter des gestes verts. Je rappelle quand même que du temps de François Hollande, on n'a pas fermé Fessenheim. C'était à peu près le seul truc qui avait été promis. Il y a eu la COP21, qui a été un acte fort, mais c'était un acte diplomatique. En quoi est-ce que ça traduisait de l'exemplarité en France? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, excusez-moi, mais j'ai juste un truc à dire par rapport à la droite. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'extrême droite, le Front National, évidemment, il porte aussi pour des raisons électorales des propositions écolo, mais que dans la culture de l'extrême droite, la question de la relation à la terre, la question de la relation à la mère patrie, le pétinisme, porte aussi quelque chose sur l'amour de la terre. D'ailleurs, c'est une des difficultés qu'ont les socialistes et la gauche par rapport à l'écologie, parce qu'ils disent, au fond, c'est marqué à droite sur l'amour de la terre. Ce qui, évidemment, l'amour de la terre, c'est pas l'amour de la nature. Mais il y a quelque chose quand même dans l'extrême droite qui a porté dans la culture littéraire, dans la culture, des choses qui peuvent être rattachées à de l'écologie de droite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez une revue qui s'appelle Limite, qui est portée par des intellectuels franchement de droite plutôt réactionnaire et qui dit qu'elle fait de l'écologie intégrale.
Avant de revenir à la droite, on en dira un mot dans quelques instants. Revenons à Europe Écologie Les Verts. Michel Rivasi, Lucille Schmitt parlait de l'inaction de la gauche quand elle était au pouvoir. Et les Verts, alors parce que les Verts aussi ont participé au pouvoir, eux aussi ont été au gouvernement. Est-ce que ce manque d'action politique, là aussi, explique la situation actuelle d'Europe Écologie Les Verts?
Je dirais ça dépend un peu... À quelle époque? Moi, j'ai été députée à l'Assemblée nationale sous Jospin. Et sous Jospin, il y avait Dominique Voynet. Et quand on posait des questions à Jospin en disant « il faut faire plus sur l'environnement, sur la santé, sur la transition écologique », il disait « mais il y a Voynet pour s'en occuper ».
Qui était ministre de l'Environnement.
Et en même temps, Jospin, quand même, a respecté l'accord électoral qu'il y a eu entre le PS et les Verts. Il y a eu la fermeture de Crémalville, il y a eu l'arrêt du canal Rhin-Rhône, et il y avait quand même toute une réflexion sur, vous voyez, le type d'agriculture. Sous Hollande, j'avoue que ça a été l'échec. Il y a eu des Verts qui sont rentrés au gouvernement, mais il n'y a pas eu du tout le respect, si vous voulez, des accords conclus. Il n'y a pas eu la fermeture de Fessenheim. On voit bien que c'était un système qui s'est complètement libéralisé. Il n'y a pas eu, suite au Grenelle de l'environnement que vous citiez en 2006-2007, une réduction des pesticides. Sur le modèle des transports, c'était on fait confiance au privé et on a délégué énormément, par exemple, la problématique de l'eau à des grosses entreprises comme Veolia. Vous voyez, c'est vrai que sous Hollande, il y a eu une déception de ce que pouvaient faire les Verts lorsqu'ils étaient à l'exécutif. Et je rajouterais, moi, s'il y a un déficit, par exemple, au niveau législatif, au niveau des Verts, c'est le modèle de scrutin. C'est pour ça que pour nous, les élections européennes, elles sont très importantes, parce que c'est la proportionnelle. Et en même temps, les gens voient très bien que sur le plan européen, il y a un territoire, je dirais, qui est performant et pertinent sur tout ce qui va toucher à la protection, que ça soit de l'air, que ça soit de l'eau, que ça soit des molécules chimiques, on l'a vu sur les perturbateurs endocriniens. Vous voyez, c'est à une échelle européenne qu'on peut jouer là-dessus. Et que s'il n'y a pas des écologistes pour se bagarrer, vous voyez, sur ces sujets, ben c'est pas le Parti Socialiste qui a pas... Il y a un déficit culturel. Le seul qui a pris conscience de ça, c'était Hamon au niveau des présidentielles. Ça a été le seul à parler au début des perturbateurs endocriniens. On avait l'impression que c'était un ovni, alors que les écologistes en parlaient depuis longtemps, mais c'était pas audible. Et je trouve que là-dessus, il y a une évolution qui se crée, mais qui ne touche pas l'ensemble de la gauche. Au niveau du Parti communiste, ça a toujours été un parti hyper productiviste.
On va faire tourner la parole à Michel Rivasi.
Qui avait mis la santé et l'environnement, vous voyez, en premier lieu. Et puis sur la gouvernance, je pense que là aussi, il y a une différence, c'est que les écologistes veulent impliquer la population dans la prise de conscience, vous voyez, des enjeux et des urgences. Et qu'il n'y a pas un État qui va tout décider. Et nous, on est beaucoup plus sur une décentralisation.
On a bien compris.
On est beaucoup plus sur une autonomie, par exemple, des régions. C'est pour ça que, vous voyez, les élections européennes
on a bien
sont
compris
très
que c'était
importantes
très important pour les écologistes politiques. Daniel Nouage, vous voyez...
Oui, je ne suis pas d'accord avec le diagnostic de Michel Rivasi sur les deux périodes d'alliance entre le PS et les Verts. 97-2002, la gauche plurielle. Effectivement, on arrête Creys-Malville et on ne fait pas le canal Rhin-Rhône. Point final. Était prévu, par exemple, la fin de certains contrats de traitement à la Hague. Rien de ce côté-là. Et c'est tout. Et c'est tout. Et dès le début, on va autoriser les cultures OGM, ce qui a posé un problème énorme. Il se passe rien pendant cette période. Je connais, bon, Voynet a fait ce qu'elle a pu, elle est embêtée par les chasseurs, par des problèmes complètement secondaires. Il n'y a pas une vraie transformation sous la gauche plurielle.
Lucille Schmitt, rapidement, parce qu'on va revenir aussi après aux autres explications de la situation d'Europe Écologie Les Verts aujourd'hui.
Moi, je crois que il faut effectivement aussi se poser la question de la responsabilité des écologistes. C'est-à-dire que quand ils sont au pouvoir, Michel Rivasi disait, au fond, on leur sous-traite l'écologie. Bon, je rappellerai quand même que du temps de François Hollande, Cécile Duflot avait choisi le ministère du Logement et que le ministère de l'Écologie était occupé par des personnalités socialistes. Donc on peut pas dire ça du temps de Hollande. Il y avait un accord assez fort qui avait été négocié, mais je crois que les écologistes ont aussi choisi de sortir, enfin Cécile Duflot et Pascal Canfin qui étaient ministres, ont choisi de sortir du gouvernement sans explication politique correcte et que d'une certaine manière, ça n'a pas été compris aussi par l'opinion publique parce que on s'acheminait vers les principales échéances vertes, en fait, du quinquennat. C'est-à-dire une loi de transition énergétique après un débat national sur la transition énergétique et la COP21 qui a quand même été un accord diplomatique exceptionnel. Donc il y a eu une espèce de ratage du calendrier et je pense que ce sentiment de décalage des écologistes politiques lorsqu'ils sont au gouvernement, toujours décalé, et pas un contre-pouvoir efficace. Il devrait être un contre-pouvoir efficace, mais se recaler sur le calendrier du pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore à construire. Ceci dit rapidement.
France Culture, du grain à moudre d'été, Antoine Genton.
Est-ce la fin de l'écologie politique? C'est la question que nous nous posons ce soir avec trois invités. Lucille Schmitt, vice-présidente du groupe de réflexion La Fabrique écologique. Le chercheur Daniel Bois, directeur de recherche émérite au CEVIPOF. Et Michel Rivasi, député européenne, Europe Écologie Les Verts. Revenons donc au problème, au pluriel d'Europe Écologie Les Verts. On en a abordé quelques-uns. Cette action politique, disons, discutable, hein, quand les Verts se sont retrouvés au pouvoir avec les socialistes, avec la gauche. Juste deux chiffres pour vous redonner encore une idée de l'effondrement de l'écologie politique, enfin d'Europe Écologie Les Verts. Le nombre de voix à l'élection présidentielle, 1 500 000 voix en 2002 pour Noël Mamère, c'est le plus haut atteint par les Verts, 0 en 2017. Et pour cause, le candidat vert, Yannick Jadot, avait renoncé finalement à se présenter alors qu'il avait été désigné par les militants verts au profit de Benoît Hamon. Autre chiffre, le nombre d'adhérents divisé là par 4 en 8 ans, 16 000 en 2010 et officiellement aujourd'hui 3 800. Michel Rivasi, quel est le problème d'Europe Écologie Les Verts? Quelles sont les causes de cette désaffection?
Mais vous parliez d'abord des présidentielles. Présidentielles, ça n'a jamais été une élection super pour les écologistes. C'est vrai que le meilleur score, ça a été Noël Mamère. Mais bon, ça n'a jamais été vraiment la super élection. Par contre, au niveau régional, au niveau municipal et surtout au niveau européen, les Verts ont toujours fait de très bons scores. Enfin, très bons scores, c'est pas...
Donc vous dites que le parti va très bien aujourd'hui.
20 ou 30%, mais des scores tout à fait respectables. Après, on a eu une crise un peu au niveau de la gouvernance. C'est que on s'est aperçu qu'il y a plein de gens qui faisaient une carrière personnelle. Et ça, c'est vrai que ça a été très dur par rapport au parti lui-même. Mais sur les problèmes de l'écologie, quand on voit ce qu'ont fait les écologistes sur le plan municipal, sur le plan régional et sur le plan européen, enfin, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Quand on s'est bagarré, qui c'est qui a développé le bio? Par exemple, dans les municipalités, c'est quand même les écolos. Qui c'est qui a déjà anticipé le fait qu'il faut pas de pesticides au niveau des espaces verts dans les villes? Ça a toujours été les écolos. Quand on a repris l'eau à Veolia, par exemple, et qu'on a voulu que ça soit en régie directe, parce qu'il y a une notion de bien commun, mais c'était les écolos. Moi, quand je vois le boulot qu'on peut faire au Parlement européen, que ça soit sur les Dieselgate que vous parliez, dont vous parliez tout à l'heure au niveau de l'actualité, ben, c'est les écolos qui sont derrière, les Panama Papers, sur l'évasion fiscale, c'était Eva Joly, ben, c'est aussi les écologistes avec ce qui se passe à ce moment-là sur les pesticides. C'est ça, vous vous rendez pas compte. D'un côté, vous dites, oui, il y a un effondrement. Non, c'est sur les présidentielles, parce que pour une fois, il y avait un
aux législatives aussi, aux élections nationales.
De gauche, qui avait intégré les valeurs de l'écologie.
On va interroger.
On a joué le jeu, et puis, malheureusement, il n'a pas coupé avec le PS, et il y a eu un effondrement. Mais sur tout le reste des élections, heureusement qu'il y a des écologistes.
Parce on va avoir l'avis de Daniel Bois sur ce sujet, Michel Rivasi. Est-ce que le parti écologiste serait donc un parti local avant d'être un parti national et que c'est de là d'où vient son problème?
Disons qu'il y a une difficulté. Alors c'est vrai qu'elle tient en partie au mode de scrutin. Je vais y venir dans une seconde. Au niveau local et au niveau européen, il y a eu souvent une bonne réussite. Ça a bien avancé au niveau local, régional, assez précocement. Il y a un verrou au niveau national, un véritable verrou. Alors ce verrou, il est à cause du mode de scrutin, c'est vrai. Il y a un mode de scrutin majoritaire à deux tours qui oblige absolument les Verts à avoir une alliance avec le PS, avec toutes les difficultés de cette alliance. Bon, je reviens pas dessus. Donc là, et ce qu'il faut regarder, qui est à mon avis un problème crucial, c'est que qu'est-ce qui se passe quand il y a un accord entre le PS et les Verts? Eh bien, il y a un certain nombre de circonscriptions qui sont réservées aux Verts, c'est qu'il n'y a pas de candidat PS. Dans ces circonscriptions, habituellement, en tout cas en 97 et dans d'autres occasions, les Verts font un assez bon score. Partout ailleurs, ils font un mauvais score. C'est-à-dire quand ils sont en concurrence avec le PS, même dans des conjonctures d'alliance avec le PS, ils font 3-4%. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire aussi longtemps que, à eux-mêmes, sur une élection nationale, les électeurs n'accordent pas plus qu'au PS, aussi longtemps que ça durera, quel que soit le mode de scrutin, il y aura un problème. Il n'est pas du tout garanti que la dose de proportionnelle change quoi que ce soit.
Et là, le problème, Lucille Schmitt, est-ce qu'il n'est pas aussi au sein même du parti sur les divisions internes, éventuellement un manque de clarté aussi sur la ligne politique à suivre?
Sur la question de la ligne politique, moi je pense que le fait qu'il y ait ce verrou national, et qui existe depuis toujours, hein, c'est quelque chose d'essentiel et que ça devrait amener les Verts à s'interroger à la fois sur leur sociologie, la sociologie de ceux qui présentent, et sur leur projet. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, il y a un refus au niveau de LV de penser la question de l'État, de penser le niveau national, et de penser donc la question de la responsabilité au pouvoir. Est-ce que c'est un refus conscient, inconscient? J'en sais rien, mais ça correspond pas en tout cas à la culture de l'écologie politique telle qu'elle est apparue en France. L'État l'État était toujours l'ennemi. Il fallait le combattre par rapport aux centrales nucléaires, il fallait le combattre sur le Larzac, il fallait le combattre sur l'agroalimentaire. C'est vrai qu'il fallait combattre, au fait, un État qui apparaissait dans un modèle dominant de croissance. Aujourd'hui, alors que la société française, je voudrais qu'on en parle, on dise un petit mot quand même avant la fin de l'émission, sur le fait que la société française est dans une situation de plus grande compréhension des enjeux écologiques, d'abord parce que ça a été rappelé par Michel et Daniel. Aujourd'hui, c'est visible, le réchauffement climatique, et par ailleurs, la malbouffe, c'est aussi visible. Et par ailleurs, on voit bien que l'influence de grandes entreprises pour conserver un modèle qui, au fond, coûte en termes de santé publique notamment, est déterminante, y compris par rapport au pouvoir politique. Donc c'est visible, la société est beaucoup plus convaincue sur le plan écologique que dans les années 80-90. Je crois que dans les années 70, Dominique Bourg le dit assez bien, elle était déjà assez convaincue. Et puis il y a eu cette espèce de parenthèse. Le paradoxe étant que c'est un moment quand même où la gauche a été notamment au pouvoir en alternance avec la droite. Et donc par rapport à ça, il y a un gap de plus en plus important entre une sorte de conviction écologique plus profonde de la société française, d'une partie de la société française, et puis les résultats électoraux des Verts. Et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger, et que les Verts devraient se dire, ben, ça veut dire sans doute qu'il faut penser la question de l'État, la question du lien entre l'économie et le social. Est-ce que les inégalités sociales sont correctement traitées dans le cadre des programmes des Verts? Je regardais le programme de l'université d'été de ELV, où il y aura beaucoup d'ONG qui seront présentes, mais peu d'acteurs politiques, d'autres partis politiques. Enfin, en fait, j'en ai pas vu rapidement. Je crois pourtant qu'il faut dialoguer avec les autres partis politiques, se confronter pour montrer qu'on est prêt à assumer le pouvoir, y compris sur le plan diplomatique, économique, sur les questions sociales, sur la santé, et pas seulement sur les questions environnementales.
Au-delà des actions qui ont été menées, vous le rappeliez, Michel Rivasi, par les Verts à différents échelons, à l'échelon local notamment, ce que vient de dire Lucille Schmitt, c'est une contradiction. Comment expliquer qu'aujourd'hui, alors que la société est sensible aux problèmes écologiques, les Verts fassent des scores aux dernières élections aussi décevants et aussi petits?
Mais je vous rappelle que ça dépend des élections.
Oui, on l'a bien entendu.
Et je crois que le problème, c'est les Verts, ils sont pas contre les alliances. Si vous appartenez au municipal, c'est un projet au niveau d'une municipalité. Donc là, il peut y avoir une alliance avec d'autres partis sur un projet. Au niveau régional, il y a eu des alliances. Mais par rapport, par exemple, aux européennes, c'est vrai que là, c'est un modèle. C'est une autre Europe qu'on veut construire, et avec, si vous voulez, une rupture par rapport au modèle
sur les alliances, Michel Rivasi. Michel Rivasi, sur les alliances, excusez-moi, dont vous parliez il y a quelques instants, là aussi, il y a une stratégie différente au sein d'Europe Écologie Les Verts. Certains sont pour ces alliances, d'autres sont contre. Il y a des divisions au sein d'Europe Écologie Les Verts.
Oui, mais comme dans tout parti, si vous voulez, c'est pas typique des Verts. Là, il y en a certains qui veulent faire aucune alliance, mais l'histoire a montré qu'il y avait une majorité, suivant les élections, qui voulait faire une alliance. Mais sur les européennes, c'est pas l'intérêt. Déjà, il faut qu'on rassemble notre famille écologiste, qu'on rassemble les associations qui sont sur des terrains, que ça soit le bien-être animal, que ça soit ce qu'on avait vécu en 2009 sur l'évasion fiscale, etc. Des gens qui nous apportent des compétences et qui sont, si vous voulez, pertinents sur le terrain. Et puis après, on verra après s'il faut faire d'autres, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Mais à l'heure actuelle, ce qui a un peu bougé, c'est que des alliances de partis, ça marche plus. Puisque les partis, souvent, n'ont pas apporté une légitimité et une véracité par rapport à leur combat, qui a fait que les gens ont perdu confiance. Moi, franchement, mon parcours, c'est venu de mouvement associatif, et ça a toujours été de me bagarrer par rapport aux citoyens.
Et c'est pour ça aussi que Yannick Jadot, tête de liste européenne d'Europe Écologie Les Verts, a refusé l'alliance avec Benoît Hamon.
Le fait de pas vouloir chercher à aller plus haut, à être ministre, tout ça, parce que on sait que il y a des contradictions qui peuvent avoir lieu, ou des compromis qui sont plutôt des compromissions à certains niveaux. Il y a une telle urgence à l'heure actuelle que c'est à nous, si vous voulez, à dire, ben, regardez la situation. Si on se bagarre pas ensemble, si on n'a pas des gens ce type de responsabilité politique à plein temps, parce qu'il faut voir quand même les Verts sur le plan européen, c'est eux les plus présents. Oui. Tous les combats qu'on a gagnés, que ça soit la pêche électrique, que ça soit les pesticides, que ça soit les néonicotinoïdes, etc. Et moi, je suis rapporteur sur l'union de l'énergie. Je peux vous dire que on emmène l'énergie renouvelable. Et ben ça, maintenant.
Et vous aussi, vous en avez l'énergie, Michel Rivasi. On le voit bien. On voit toutes les actions menées par les Verts. Vous le dites. On vient de voir quelques raisons, quelques causes de l'affaiblissement du mouvement Europe Écologie écologie Les Verts, même si, Michel Rivasi le rappelait, même si à certains échelons et dans certaines collectivités locales, l'action des Verts existe. Je voudrais qu'on parle maintenant d'autres représentants d'écologie politique, parce qu'il n'y a pas qu'Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas que Les Verts sur l'échiquier politique français. Il y a aussi, par exemple, Nicolas Hulot. J'en parlais en ouverture de cette émission. C'est une autre illustration des difficultés de l'écologie politique. Dans quelle situation est-il, Lucille Schmitt, Nicolas Hulot? Il est bridé, contraint par l'Élysée aujourd'hui?
D'abord, ce qui est intéressant, Michel Rivasi a dit il ne faut pas vouloir être ministre, il faut combattre tous ensemble. Nicolas Hulot est ministre. Et en fait, je pense qu'il faut vouloir aller plus haut lorsqu'on est écologiste politique. Il faut évidemment entrer dans le système. Alors, Nicolas Hulot...
Pour pouvoir agir par
la responsabilité et par la démonstration qu'on est efficace à l'intérieur du système et vouloir transformer le système. Alors, la situation dans laquelle il est, c'est que on a un extraordinaire autoritarisme de ce modèle macronien qui correspond en plus aux institutions. Et on voit bien qu'on a un gouvernement sans poids lourd. Bon, Édouard Philippe existe, mais à côté de ça, on a bien vu au moment de l'affaire Benalla...
Sans poids lourd politique.
Oui, je voulais pas dire, je voulais pas parler des gros. Et donc, Nicolas Hulot, c'est celui qui a le plus d'aura. Il a d'ailleurs une popularité totalement intacte, alors même que dans tous les sondages, il est considéré comme pas très efficace comme ministre. Et donc, il doit résoudre cette question d'une popularité qu'il a construite en externe au sein des institutions. Donc, comment est-ce qu'il pourrait faire pour exister davantage? Et que la sempiternelle question sur est-ce qu'il doit démissionner ou est-ce qu'il doit rester, qui est quand même une question... qui d'une certaine manière est une façon pour nous de parler de l'écologie, je crois. Est-ce qu'on se préoccupe d'écologie ou est-ce qu'on a envie de laisser l'écologie de côté? Je crois que cette question, elle est adressée à tout ministre de l'écologie. Je pense que pour ça, il devrait arrêter d'être un ministre comme les autres et que ce qui serait très essentiel, moi j'avais parlé d'une forme d'indiscipline constructive, il devrait montrer que à chaque proposition économique, chaque proposition sociale, ne pas se cantonner sur l'environnemental, il devrait montrer qu'est-ce que serait une proposition écologique. Parce que au fond, la difficulté de l'écologie politique aujourd'hui, c'est bien qu'elle est cantonnée à une sorte de segmentation, alors même que c'est l'ensemble du projet gouvernemental qui devrait être davantage écologique. Après, sur le sujet de Nicolas Hulot, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est toujours tenu à distance d'un parti politique. Et au fond, la question qu'on doit se poser dans cette émission, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'individualités, quelque part, qui apparaissent crédibles comme écologistes politiques, et pourquoi aucune structure comme parti n'apparaît crédible, alors même que de grandes ONG, ça a été rappelé par Michel Rivasi ou par Daniel Bois, sont crédibles. Par exemple, qu'est-ce qui a gagné sur la pêche électrique au Parlement européen? C'est aussi beaucoup l'ONG Bloom avec Claire Nouvian, évidemment épaulée par les députés européens verts. Mais il y a des actions de lobbying qui sont menées par des ONG et qui ont une portée politique.
Daniel Bois, sur ce sujet, sur la place de Nicolas Hulot au sein de l'action écologique en France.
Sa place n'est pas simple. D'abord parce qu'il n'a pas de soutien dans la société, d'une certaine façon. Enfin, il a soutien global parce qu'il a... C'est quelqu'un de très médiatique, qu'il a une très bonne image.
Il a une image, oui, il a une bonne image.
Qui fait qu'il a une popularité à peu près intacte. Mais il n'y a pas d'organisation qui le soutienne. Je veux dire, à peine était-il en place que, évidemment, tout le monde a commencé à lui tirer dessus, que ça soit les Verts ou les ONG. Donc c'est compliqué, son travail. Moi, je trouve qu'il s'en tire pas trop mal dans la mesure où il explique très clairement, voilà, tant que je sens que je sers à quelque chose, je reste. Si je sens que ça marche plus, je m'en irai. Et je le crois assez sincèrement quand il dit ça. L'énorme difficulté, c'est qu'il était à peine en place que tous les 8 jours, on se demandait s'il est parti, les médias posaient la question de savoir...
Oui. Lui aussi, c'est lui-même posé
la question. Lui aussi, j'en sais rien. J'en suis sûr, parce que c'était écrit. Lui-même, j'en sais rien. Je lui ai pas demandé s'il avait...
Il l'a dit.
Il était hésitant. Donc, c'est quand même... très difficile d'être dans ces positions. Mais bon, c'est un pari, il a longtemps hésité, rappelez-vous. On lui a plusieurs fois proposé.
Oui, François Hollande notamment lui a
Sarkozy
proposé.
Hollande lui avait proposé. Il a pris cette position assez tardivement, peut-être en se disant, bon, il est temps, après il sera trop tard, c'est la dernière occasion. Bon, moi je trouve que c'est honorable ce qu'il fait, ça tient debout, même si à l'évidence, on va dire qu'il gagne pas toujours... Dans les négociations, évidemment, comment ils pourraient gagner toujours, bien sûr.
Il nous reste 5 minutes, le temps passe vite. On a parlé de Europe Écologie Les Verts, on a parlé de Nicolas Hulot et partant un peu de La République En Marche. On a parlé du Parti Socialiste aussi. Et pour les autres partis, est-ce que l'écologie est présente, Daniel Bois? Est-ce que c'est un thème qui est porté par d'autres partis?
Écoutez, sauf exception, je vois pas, moi. Écoutez ce que dit Laurent Wauquiez sur l'écologie. Il dit « je suis contre l'écologie punitive ». Remarquez ça, il l'a emprunté à Ségolène Royal, je crois. Mais c'est à peu près tout ce qu'il dit. Et quand on lit le programme de Fillon au moment de la présidentielle, c'est un véritable désastre du point de vue de l'écologie politique. Bon, je passe sur les Verts. Lucille avait raison de dire qu'il y a des racines de droite à l'école, d'extrême droite et de droite à l'école. C'est vrai. C'est parfaitement vrai. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu ringard quand même.
Et à l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon?
Alors, il y a l'exception Mélenchon. Moi, je crois qu'il est sincère, Mélenchon, effectivement. Je crois qu'il est, il y croit vraiment. Je crois
pour
qu'il
lui,
a bien construit.
Parce que
c'est un homme intelligent et qui lit et qui se forme. Donc, il a bien vu qu'il y avait là un vrai enjeu. Et puis, l'intérêt pour la France insoumise, pour ce type de formation, au fond, la France insoumise, comme le PC, il représente un discours idéologique qui n'est pas tout à fait nouveau, quand même. C'est pas exactement nouveau, la lutte des classes. Hein. Et donc, le fait d'intégrer là-dedans cette procédure, cet enjeu complètement nouveau et véritablement, qui est une véritable conversion à faire de l'écologie, c'est aussi une manière de dire, voilà, on n'est pas que la lutte des classes traditionnelle que vous connaissez depuis 40 ans, il y a aussi cet enjeu monumental de l'écologie. Donc il faudrait maintenant, Mélenchon, c'est pas la France insoumise, et voilà, donc on verra ensuite si c'est vraiment soutenu au moment des européennes en particulier.
Et ben justement, je voudrais terminer par les élections européennes, il nous reste vraiment deux minutes, Michel Rivasi, vous en avez longuement parlé hein, au cours de cette émission. Les députés français, Europe Écologie Les Verts, ne sont pas les seuls députés écologistes au Parlement européen. Rapidement, quelle perspective pour les européennes de l'an prochain? Très rapidement, s'il vous plaît.
Eh bien, vous savez qu'on va faire une liste écologiste où on va intégrer la société civile. Yannick Jadot, qui va être tête de liste, on va aussi faire en sorte à ce que on propose un modèle qui est différent du modèle soit libéral qui est porté par Macron et puis aussi par les conservateurs, ou ce modèle qui est très souverainiste, où on veut mettre des forteresses, voyez, au niveau des États, c'est l'État-nation. Et on voit bien que par rapport à ce phénomène sur la migration, tant qu'on va être sur les États-nations, il y aura une non-acceptabilité de ce phénomène qu'est la migration et qui intègre aussi le problème du climat, du réchauffement climatique. Parce que si on n'accepte pas des gens, vous voyez, qui ne peuvent plus manger, qui n'ont plus accès à l'eau, etc., en disant, mais nous, on va se protéger, et puis le reste de la planète, ils feront ce qu'ils voudront, on a à se bagarrer sur ce modèle qui sera humaniste, qui sera sur un bien-être, qui sera sur une transition énergétique, parce que c'est très important. Et juste pour dire deux mots quand même,
très rapidement,
collègues,
il nous reste
pas donné la parole là-dessus. Je voulais dire que c'est vraiment
Lucille Schmitt et Daniel Bois veulent dire un mot aussi là-dessus.
Son problème, c'est qu'il est tout seul. Et ce qui est dramatique, c'est pourquoi des gens comme Édouard Philippe, comme Macron, comme le Travers, ministre de l'Agriculture, comme Madame Buzyn, ce sont des gens qui sont porteurs des lobbies. Quand vous me disiez, est-ce que dans la droite, il y a de l'écologie? Il y a une écologie de façade. Mais ce sont des porteurs de lobbies. Ils vont défendre les laboratoires pharmaceutiques, ils vont défendre le nucléaire, on le voit sur Édouard Philippe, ils vont défendre l'agrobusiness, on l'a vu sur le ministre de l'Agriculture. C'est ça qui est terrible.
On l'a compris.
Et au niveau du Parlement européen,
je voudrais
les
donner
gens,
la parole
il faut bien qu'ils choisissent leurs futurs députés.
Et à Daniel Bois.
Ils ont des députés conservateurs et ils vont défendre les lobbies. Soit ils ont des députés écolos et ils vont défendre le bien-être pour tout le monde.
On l'a compris. Lucille Schmitt, sur ce sujet des élections européennes.
Sur les élections européennes, la difficulté pour les écologistes, c'est d'imposer un agenda écologiste alors que tout le monde ne parle que d'un sujet, les populistes versus les progressistes, c'est en tout cas ce que veut imposer Macron. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on voit bien que les sondages, en tête dans les différents pays européens, donnent déjà des perspectives très contrastées, puisque c'est un groupe européen au Parlement européen. Donc, par exemple, en Allemagne, les sondages sont très bons pour les Verts allemands qui ont toujours participé au pouvoir ou essayé d'y participer. En Belgique, c'est très bon aussi. En France, c'est pas mauvais, mais pas excellent. Donc, la question, au fond, c'est aussi comment les écologistes européens pourront peser pour que le Parlement européen ait plus de pouvoir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on a senti dans ce que disait Michel Rivasi qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les députés européens verts et ils ne trouvent pas les relais à la fois du côté de la Commission, qui a été pro-glyphosate par exemple, ou du côté du Conseil. Comment est-ce qu'ils peuvent réussir à construire plus d'efficacité? Moi je crois que c'est la grande question qui doit se poser en dehors du sujet des alliances ou pas avec Benoît Hamon.
Bon, on suivra ça dans 10 mois, Daniel Bois.
Oui,
très vite.
On observera effectivement sûrement une grande diversité sur les pays. Moi, ce qui m'intéressera beaucoup, c'est au global, combien fait l'écologie dans l'ensemble de l'Union européenne. C'était de l'ordre de 7% la dernière fois, si on compte tout le monde. Est-ce que ça va progresser ou stagner ou régresser?
Réponse en mai prochain, en mai 2019. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique Écologie, groupe de réflexion. Daniel Bois, directeur de recherche émérite au CEVIPOF. Michel Rivasi, député européenne Europe Écologie Les Verts, en direct de Valence. Merci d'ailleurs à nos amis de France Bleu Drôme Ardèche qui ont permis ce duplex. Un grand merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Laïla Saïdi, Copelia Ménardi, Iselt Sicard, Imen Mélaz et Marine Lerouge. Réalisation Alexandra Longuet, prise de son Morgane Danan. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. À demain, 18h15, nous nous demanderons si la Grèce est bel et bien sortie d'affaires après la fin des plans d'aide internationales.